Partie 18 principes. Toutes les nations qui sont du monde chrétien sont, jusqu'à ce jour, pour les ministres, et celles qui ne le sont pas sont les branches sèches qui sont sorties de l'Église. Oh! Comme j'ai supplié le Seigneur, lui qui vous convertirait, de se souvenir de ceux qui ont autorité sur vous, ceux qui ont annoncé la parole de Dieu et qui gouvernent bien sont dignes d'un double honneur. Les branches sèches qui ne produisaient pas de fruits étaient jetées au feu. Ce ministre, qui a dit plus haut qu'il n'y a pas de bonheur dans cette vie, n'a aucune idée de la manière de produire chez ses auditeurs le fruit de l'esprit, qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur ou humilité et maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Ce ministre prétend parler la parole de Dieu. Lire la Bible, ce n'est pas parler la parole de Dieu, lire la Bible, c'est lire la lettre morte. Parler la parole de Dieu, c'est dire ce que l'Esprit de Dieu vous dit de dire à cet instant, ainsi les paroles conviennent parfaitement à la « aux personnes » à qui l'on s'adresse. Et parce que le Saint-Esprit contrôle la prédication, le Saint-Esprit enchaîne les cœurs des auditeurs, de sorte qu'ils entendent réellement, et entendent les paroles attestées dans leur cœur comme vérité. Réponse. Vous avez apostasié des anciens parmi les apôtres, et des apôtres, et, dans une autorité usurpée, vous êtes des ministres faits par la volonté des hommes, dans des écoles et des collèges, non par la volonté de Dieu, comme l'étaient les apôtres. Ainsi votre honneur doit être effacé, et vous êtes les branches sèches, retranchées de la véritable Église, votre Église et votre ministère manquant l'un et l'autre de la vertu et de la vie de Dieu, ainsi vous êtes brisés en tas, et en sectes, et en noms parmi vous-même, manquant l'unité et le lien de la paix. Les nations ont reçu le nom de chrétiens, mais elles sont mortes, elles sont hors de la vie, et vos prières sont comme celles des pharisiens, vous étant trouvés dans leurs traces, comme vous pouvez le lire en entier dans Matthieu 23. Vous dites que nul ne peut être parfait sur la terre, alors comment et en quoi sont-ils convertis? Ceux qui sont convertis en Christ, qui est parfait, hors du premier, qui n'est pas parfait, principe. Les ennemis des ministres sont les précurseurs de la lourde colère de Dieu, et les Juifs furent tout à fait retranchés de l'Église et faits vagabonds sur la terre, ils se moquèrent des messagers de Dieu, jusqu'à ce que la colère vînt sur le peuple. Les ministres sont soit leur père, soit leur nourrice dans le Seigneur. Leur péché est tué, et la grâce est vivifiée par le moyen des ministres. Cet homme se présume messager de Dieu, et pourtant il n'a jamais entendu Dieu lui parler, et il nie que Dieu parle encore aux hommes. Son prétendu message est « il n'y a pas de bonheur dans cette vie, et il est impossible d'obéir au commandement de Dieu ». Cela rend Dieu cruel et injuste, prouvant que cet homme est un ministre de Satan, se faisant passer pour un ministre de Dieu. Réponse : le précurseur de la colère de Dieu sur les Juifs fut qu'ils avaient des temples et des dîmes, et qu'ils s'opposaient aux ministres de Christ. Il en est ainsi pour vous, comme il en fut pour ceux qui ne virent pas la substance, et qui maintenant s'opposent à la lumière et combattent contre elle. Les railleurs, les envieux et les persécuteurs n'ont-ils pas toujours été des vagabonds ? N'êtes-vous pas tous vagabonds hors de la vie des apôtres, comme les Juifs l'étaient hors de la loi de Dieu ? N'êtes-vous pas tous en tas autour des mots et des Écritures, montrant que vous êtes sans vie ? La colère et les plaies de Dieu, et le fléau débordant, ne sont-ils pas venus sur vous qui vous tenez ainsi contre ces ministres en ce jour, vous qui êtes envoyés parmi vous comme des cages d'oiseaux impurs, qui ne consolez pas le peuple, ne tuez pas leurs péchés, ne vivifiez pas leur grâce, maintenant le peuple dans ses péchés, leur disant qu'ils doivent garder le corps de péché tant qu'ils sont sur la terre. Ne vous moquez-vous pas des messagers et des ministres de Christ ? La colère n'est-elle pas venue sur vous ? Et beaucoup du peuple n'a-t-il pas été frappé de mort pour avoir agi ainsi ? Vous êtes hors de l'Église des apôtres et vous en avez apostasié, vous qui persécutez et vous moquez des ministres de Christ qu'on appelle par dérision Quakers, qui sont envoyés librement parmi vous, non pour des terres de bénéfices, des dîmes, des redevances de Pâques, ni des droits de la Saint-Jean, ni comme vous qui chassez les papistes des terres de bénéfices, des dîmes, des redevances de Pâques et des droits de la Saint-Jean, et vous y installez vous-même, qui chassez les papistes de leur maison de messe et vous y précipitez vous-même. Ainsi en cela, vous n'êtes pas comme les ministres de Christ, qui ne recherchent pas ces choses, mais eux, mais vous recherchez ces choses, non pas eux, et vous les chassez, cela fait venir des plaies sur vous. Et ainsi parce que les papistes, les ivrognes, et ce qu'on appelle maintenant ministres, recherchent les moyens du peuple, et non le peuple, cela rend odieux les vrais ministres de Christ, qu'on appelle par dérision Quakers, qui ne recherchent pas ce qui leur appartient mais eux. Et vous n'êtes ni les vrais pères ni les vrais nourrices, mais dans l'apostasie d'avec eux, et regimbant contre ce qui vous pique, marchant sur les pas de Saül, qui alla avec des prêtres qui avaient des dîmes, qui s'étaient écartés de la vie, et ne voyaient pas la substance. Comme vous rapaces loin de l'Esprit de Dieu, vous avez établi des dîmes, vous qui ne voyez pas la substance, vous vous endurcissez n'écoutant pas la voix, aux yeux de qui la repentance est cachée, voitant pour vos intérêts et vos moyens terrestres, voitant vers les tribunaux, sessions assis. Et voilà l'œuvre que vous faites, comme le déclarent les tribunaux, sessions et assises, y traînant le peuple, recherchant ce qui leur appartient et non eux. vos esprits sont éprouvés aux tribunaux, sessions et assises, et se révèlent être les faux esprits qui se sont répandus dans le monde, dont Pierre, Jude et Jean parlent, qui sont sortis d'eux et se sont séparés, et que le monde depuis a suivi, ceux qui ont été dans la voie de Caïn, de Corée et de Balaam. Principe, le travail des artisans et des princes préserve la santé, mais le mien la consume. Réponse. Ici vous avez montré que votre labeur, votre œuvre et votre ministère ne sont pas de Dieu, lui qui préserve la santé et la force, car l'œuvre du ministère est de conduire à la santé salutaire et de la préserver, et non de la consumer, comme le fait votre œuvre, afin qu'ils puissent honorer Dieu de leur bien et le servir de toute leur force. Principe. La loi donne les dîmes, disent les prêtres, et permet que nous puissions éviter de travailler, et nous nous contentons de nourriture et de vêtements, et de donner nos dîmes, si le peuple veut bien nous accorder nourriture et vêtements pour nous et nos enfants, comme il convient pour les rendre aptes au service, pourtant les Quakers appellent les ministres cupides. Réponse. Les prêtres des Juifs, qui furent rendus obéissants à la foi, avaient un commandement, tant qu'ils étaient sous le sacerdoce, de prendre les dîmes selon la loi. Mais les ministres d'autres dieux y retournent de nouveau de la foi à la loi, et disent que la loi de Dieu les leur donne, et disent que les dîmes ne sont pas au peuple mais au Seigneur. Les apôtres n'ont-ils pas aboli les dîmes, avant la loi et dans la loi, le sacerdoce et la loi tous deux? Et n'avez-vous pas ici montré que vous avez apostasié des apôtres, vous qui, dans l'apostasie, avez établi une loi dont le premier auteur fut le pape, et qui dites « la loi nous les donne », et que vous ne laisseriez pas les dîmes à moins que le peuple ne fasse marcher avec vous pour vous entretenir, vous, vos femmes et vos enfants? Était-ce là l'œuvre du ministère des apôtres? Quelles paroles y ont-té? Quoi, vous vous montrez afin que tout le monde puisse voir votre folie? Ce que donnaient les apôtres, était-ce sous condition que le peuple leur donne nourriture et vêtements en échange? Les apôtres n'ont-ils pas dit, « Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, mais de toute la pratique des apôtres vous avez apostasié. » Et vos pratiques cupides ne sont-elles pas révélées dans tous les tribunaux, sessions et assises du pays? Vous vous y précipitez, vous poursuivez en justice, et vous y faites comparaître ceux pour qui vous ne faites aucune œuvre, qu'est-ce sinon cupidité et injustice? Principe, les Quakers disent que les prêtres sont des persécuteurs comme les prêtres et les pharisiens d'autrefois, mais ils apprendront un jour à savoir que si le magistrat leur ferme la bouche, ils ne les persécutent pas plus qu'un voleur lorsqu'il est pendu. Vous dites, vous souhaiteriez que tout le peuple du Seigneur soit prophète. Réponse. C'est un mensonge trouvé dans votre bouche, car vous dites que la prophétie a cessé, vous le proclamez par toute la terre autant que vous le pouvez. Cela montre que vous n'êtes pas capable de leur fermer la bouche, ni de résister aux esprits de ceux dont vous dites qu'il ne serait pas plus persécution pour le magistrat de leur fermer la bouche que de pendre un voleur. Ainsi, devant tous les magistrats qui craignent Dieu, vous paraissez avec honte, et tous peuvent voir ce que vous cherchez en vous tapissant sous les montagnes, le sang à la manière de Jézabel, et vous faites des magistrats vos bêtes de somme et les exécuteurs de votre malice. Mais le Seigneur Dieu du ciel et de la terre, dans sa sagesse, ouvre les yeux de beaucoup. De sorte que la modération apparaît chez ceux dont le cœur porte la crainte du Seigneur, laquelle éprouve beaucoup d'entre vous, et tourne beaucoup d'entre vous vers vos propres armes pour voir quelles armes vous avez, et ils vous trouvent n'être que des lutteurs contre la chair et le sang frappant les créatures, non la puissance qui les tient captifs, afin de les en faire sortir vers la liberté des fils de Dieu. L'œuvre des vrais ministres était d'abattre les blasphémateurs, les erreurs et les faux prophètes, de fermer la bouche aux opposants, de reprendre, exhorter, enseigner, instruire avec toute autorité, et retrancher les occasions au moyen d'armes spirituelles. Et cette puissance, il l'avait dans l'Église, et il ne criait pas aux magistrats, « Emmenez-les, ils me troublent. Oh, honte !» Vous vous couvrez de honte devant tout le peuple dans l'Assemblée, ce n'était pas l'œuvre des ministres de Christ d'agir ainsi. Cette autorité dans l'Église mentionnée plus haut, que les ministres de Christ avaient pour fermer la bouche des opposants, et réduire au silence les faux prophètes et les blasphémateurs, il la tenait de Dieu et ne regardait pas aux hommes pour les aider. Mais ceux qui ont apostasié des apôtres l'abbé, le faux prophète, la mère des prostituées, qui a trompé les nations et qui était hors de la puissance des apôtres et de Christ, ont tenu leur puissance des hommes. Tous les faux ministres sur la terre y recourent pour faire taire, comme ils l'imaginent, les blasphémateurs. Et l'œuvre du magistrat, la puissance qu'il reçoit de Dieu, est de punir les péchés profanes et manifestes, et l'œuvre des ministres est d'arracher les gens à cette occasion. Les ministres protestants condamnèrent les Quakers comme blasphémateurs, tout comme les Juifs condamnèrent Jésus comme blasphémateur. Principe, les magistrats placent leurs gardes à nos portes et ne laissent entrer personne sinon ce qu'ils veulent. Que les rois de la terre montrent une succession ininterrompue, leur donnant droit à leur couronne, et je montrerai une succession plus incontestable du ministère. Tous les chrétiens de nos paroisses sont notre troupeau, nous entreprenons de prouver la vérité de telles églises. Réponse, votre église est gardée par des armes charnelles, et la succession de votre ministère est semblable à la succession des couronnes des rois terrestres, qui sont toutes faites par la volonté des hommes. Les magistrats n'ont été que vos serviteurs, et par ignorance, ils ont éteint l'esprit. Votre œuvre a été de détruire l'ordre concernant l'édification, la pratique et la doctrine des apôtres dans la véritable Église, eux qui disaient que tous parlent l'un après l'autre. Si quelque chose est révélé à un autre qui est assis là, que le premier se taise. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. De cela, vous avez apostasié, et vous avez obtenu une loi pour arrêter la pratique de cela dans votre église d'apostasie, dont vous gardez beaucoup des portes avec des gourdins et des bâtons, de peur que quelqu'un ne soit mu par l'Esprit du Seigneur à parler parmi vous de la part du Seigneur. Et vos paroisses et votre troupeau, dont vous entreprenez de prouver qu'ils sont une véritable église, hélas pour vous, que des gens soient assez effrontés pour dire que ceux-ci sont les piliers et le fondement de la vérité, ou que les maisons à clocher sont les piliers et le fondement de la vérité. Vous êtes une compagnie d'ivrognes, de jureurs, de cupides, d'orgueilleux, adonnés au plaisir, comme ceux qui disaient qu'ils étaient juifs et ne l'étaient pas, mais la synagogue de Satan, un nid d'oiseaux impurs. Principe. Nous n'attendons pas une unité parfaite avant d'avoir une connaissance et une sainteté parfaite. Réponse. Avez-vous, pendant tout ce temps, exalté votre prétention d'être les ministres de Christ, et vous n'avez pas une connaissance parfaite, une sainteté parfaite, une unité parfaite? La moindre unité est parfaite dans l'esprit, et la moindre connaissance et la moindre sainteté dans l'esprit. Et vous reconnaissez que vous n'avez pas l'unité parfaite, la connaissance parfaite, la sainteté parfaite, et cela a été la cause pour laquelle vous avez tenu tous les peuples depuis les apôtres dans l'aveuglement, hors de l'unité dans ce qui est impie, vous qui dites que vous n'avez pas la connaissance parfaite, car le moindre degré de sainteté est parfait, et dans la sainteté est l'unité, dans laquelle est la connaissance parfaite, quoique dans le moindre degré. Et vous avez confessé ne pas l'avoir, et nous vous croyons, et par vos propres paroles, vous et vous tous êtes prouvés non sanctifiés, car ceux qui sont sanctifiés ont l'unité parfaite, la connaissance parfaite, la sainteté parfaite. Principe. J'utilise des notes autant que n'importe quel homme, quand je suis paresseux ou occupé. Réponse. C'est cela qui soutient vos esprits paresseux. Ce que vous recueillez dans les livres, vous le revendez ensuite à l'heure, au sablier. Et vous faites du jour que vous appelez le sabbat votre jour de marché, vendant à la fois prière et prédication, vous qui n'avez pas l'esprit du Seigneur pour vous conduire à parler selon son mouvement, et pour vous conduire à toute la vérité comme il le fit pour les disciples. Ainsi c'est bien la paresse qui a établi vos notes, et vous les lisez au sablier pour de l'argent, et vous avez appris 7 années dans les livres et les collèges, puis vous amassez des notes chez vos auteurs et dans vos livres, et vous en faites ainsi un commerce, et ensuite vous dites au peuple que vous êtes envoyé, et que c'est la parole du Seigneur, alors que ce n'est que la lecture de livres. Et pourtant vous dites aux gens que vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu si quelqu'un vous le demande. Et ainsi les trompeurs sont jugés par leur propre bouche, vous qui avez une loi, si quelqu'un mu par l'Esprit du Seigneur pendant que vous lisez vos notes, ou que vous parlez avant ou après, nul ne doit parler contre ce que vous avez recueilli de vos livres et de vos études, ce qui n'était pas l'œuvre du vrai ministère, mais l'œuvre de ceux qui étaient hors du véritable esprit, et ainsi étaient des ministres de la lettre, et des vieux auteurs et des notes. Principe, il dit, ce sont des hommes sans miséricorde que ceux qui disent que des jours plus glorieux apparaissent, et que les saints gouverneront le monde. Réponse, en cela, vous vous êtes jugés vous-même, et il n'est pas besoin d'en dire davantage. Et le reste de vos mensonges et calomnies dans votre livre ne vaut pas la peine d'être mentionné, ils retomberont sur votre propre tête. Le livre de John, Cole imprimé en 1658, ses principes y sont les suivants. Principe, ces choses communes que la jeune prostituée dise, faites attention à la lumière intérieure. Réponse. La lumière qui éclaire tout homme venant au monde détourne de toutes les prostituées, et elles en sont hors, et de telles personnes peuvent engendrer des prosélytes, et les attribuer à Dieu comme si elles en étaient les pères, alors qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais le jour est venu où toutes choses sont manifestées, et par elles apparaissent. Et la lumière dont tout homme qui vient au monde est éclairé est l'offense pour tous les malfaiteurs qui sont hors du salut et de l'alliance de Dieu, et nul ne voit le salut que par elle. Principe. La jeune prostituée ne peut que raccommoder le mauvais vieil Adam par ses exhortations, ses instructions, ses actes et ses menaces, et elle effraie certains jusqu'à l'obéissance envers elle. Réponse, la prostituée est dans ce où le mauvais vieil Adam est dans la transgression, et ainsi ceux qui se prostituent loin de l'Esprit de Dieu ne peuvent pas réformer ni instruire le transgresseur, puisqu'eux-mêmes sont dans la transgression. Ils peuvent leur dire les paroles des saints et les répéter, comme le diable le fait, lui qui est hors de la vérité, mais toi, John Cole, tu es tombé dans la terre, et là tu crêles. Et quant au reste des choses de ton livre, cela ne vaut pas la peine d'être mentionné, mais quand tu sentiras la racine et l'arbre brûlé et tombé dans un feu autour de toi, et toi en lui, alors souviens-toi que tu n'as pas ce qui a de la saveur, comme tes œuvres confuses et enfantines le font paraître, que tu as publiées au monde par l'impression. Le livre d'Alexander Ross, qu'il appelle « Une vue de toutes les religions », ces mensonges et principes, Dieu n'est pas dans le tremblement du corps. Réponse : n'était-ce pas Dieu qui fit trembler le corps de David et Daniel, et Habacuc et Job, et les montagnes tremblèrent lorsque sa loi fut donnée. Et Dieu ne dit-il pas, il ébranle non seulement la terre, mais aussi le ciel, maintenant, ne te manifestes-tu pas comme l'un de ceux qui chassent ceux qui tremblent à la parole, et leur disent que Dieu n'est pas au milieu d'eux. Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais maintenant bien plus en mon absence, continuez à travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. Phil 2, 12 Quant aux mensonges et calomnies d'Alexander Ross, disant que les Quakers auraient dit que Christ avait des manquements et qu'il se défiait de Dieu, ce dont des milliers et des milliers peuvent témoigner en face que tu es un menteur, c'est une preuve suffisante, pour ceux auxquels ton livre est destiné, qu'il est fait de pareilles choses, de mensonges, qui sont à vue depuis la création. Le reste de ton livre est à peu près de même nature. Les faux prophètes, étudiant une divination de leur propre cerveau afin d'obtenir de l'argent, nous les nions, mais nous reconnaissons ce qui divise la parole. Tous ceux qui prient, prêchent et chantent pour de l'argent, et font commerce de l'écriture pour obtenir de l'argent, nous les désavouons, mais ceux qui prient et chantent par l'esprit, nous les reconnaissons. Toutes vos lectures pour de l'argent, nous les nions, mais ceux qui lisent librement, nous les reconnaissons. Toutes vos cérémonies, nous les nions, nous, qui sommes venus à la substance, Christ Jésus, qui était avant que le monde fût fait. Principe. Les feuilles d'un arbre ne sont pas ses fruits, et pourtant sans les feuilles le fruit ne prospérait pas. Réponse. Es-tu un homme apte à donner une vue depuis la création du monde, toi qui te trompes ainsi en connaissance naturelle, car arrache les feuilles des vignes, et vois si les raisins ne prospéreront pas. Es-tu un homme apte à donner une vue de la religion, du blasphème et de l'erreur lorsque, depuis la création, tu n'es pas capable de donner une vue vraie des événements naturels, principe. Tu dis, c'est un blasphème horrible de dire que l'Écriture n'est pas la parole de Dieu, et de dire que l'âme est une partie de Dieu. Réponse. Les Écritures sont les paroles de Dieu dans l'Exode et dans le livre de l'Apocalypse, mais Christ est la parole en qui elles aboutissent, et ce n'est pas un blasphème horrible de dire que l'âme est une partie de Dieu, car elle est sortie de lui, et ce qui est sorti de lui est de lui, et se réjouit en lui. Pourquoi veux-tu mentir en disant que les Quakers nient la parole, nous disons qu'elle les sanctifie, ces mensonges. Christ n'est pas monté au ciel, il n'y a ni ciel ni enfer ni résurrection du corps, nous n'avons ni sacrement ni trinité. Quant aux mots sacrement et trinité, ils viennent du pape, du missel et de la prière commune des évêques, mais l'unité et la scène du Seigneur sont reconnues, et le ciel, l'enfer, Christ, l'ascension et la résurrection sont reconnus par les Quakers, comme les Écritures les déclarent. Et votre vieille maison de messe, avec la croix au sommet, que vous appelez votre église, la bête l'a dressée depuis les jours des apôtres, avec son signe mensonger à son extrémité, la croix du pape. Christ est venu pour détruire le moi et réconcilier en un, et Christ interdit aux hommes d'être appelés par d'autres maîtres, et il dit que les pharisiens faisaient ainsi. Et les magistrats sont reconnus à leur place, mais tous ces ministres qui enseignent pour un gain sordide, qui font un apprentissage dans des écoles et des collèges comme des artisans, cela nous les nions. Ceux-là ne sont pas aptes à étudier ni à exposer l'Écriture, car ils entraînent les gens dans l'échauffement et dans le sang, comme leurs fruits en chrétienté le déclarent. Mais les prophètes, Christ, et ses apôtres et ministres, leurs pratiques sont reconnues, et les anciens, et leur honneur, mais l'honneur des faux prophètes et des faux apôtres est effacé par les vrais. L'Écriture ne dit pas un mot de l'aspersion des enfants, mais le baptême de l'Esprit est reconnu. Toutes vos prières dans votre maison de messe à la manière des pharisiens, et vos chants dans le temple seront changés en hurlements. Mais ce qui est selon l'Esprit de Dieu est reconnu, et les instructions privées et publiques, qui sont dans l'Esprit de Dieu, sont reconnues, et les psaumes de David à leur place sont reconnus, et le chant des saints avec intelligence, nous le reconnaissons aussi. La croix physique, suspendue au mur de l'Église, est le signe mensonger de la bête, la croix du pape. La croix était tenue en grand mépris par les premiers Quakers parce qu'elle remplaçait l'expérience nécessaire de la croix intérieure du renoncement à soi-même, et focalisait tous les regards sur l'unique croix que Jésus a portée. Plutôt que d'endurer le renoncement quotidien de la croix, la chrétienté porta des croix et s'inclina devant des croix, l'inclination faisant partie des pratiques catholiques romaines et des protestants de la première génération qui leur succédèrent. S'incliner devant la croix, c'est adorer une idole, mais même porter une croix est considéré comme une démonstration ostentatoire de religiosité, ainsi qu'un signe du manque de compréhension et du mépris de ce qu'est réellement la croix de Christ. Jésus nous a dit 6 fois que nous devons prendre notre croix chaque jour, nous renier nous-mêmes et le suivre. Note. Il nous l'a dit avant même d'aller lui-même à la croix, ainsi, son départ pour la croix et sa mort horrible étaient destinés à nous montrer l'obéissance à Dieu qui est exigée de nous tous. Porter une croix, c'est banaliser la nécessité pour chaque aspirant chrétien de mourir au moins sur sa croix intérieure personnelle du renoncement à soi, principe. Ils disent « l'Église est en Dieu, donc Dieu n'est pas dans l'Église », peuvent-ils dire ? Réponse : c'est là comme ton raisonnement et ta mesure et ton poids. L'Église est en Dieu, et Dieu est dans l'Église, et là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu d'eux. Principe. Il dit, nous parlons contre les dîmes et les gages des clercs pour dire Amen, et vous dites que c'est une opinion absurde. Réponse. Les dîmes avant la loi, et dans la loi, étaient reconnues. Ils devaient donner le dixième du butin de guerre et le dixième de la terre pour les services requis pour les veuves, les étrangers, les orphelins, et les vies qui n'avaient aucune part dans la terre, afin qu'il n'y eût pas de mendiants parmi eux, ces dixièmes les préservaient des mendiants, et telle était la loi. Et Melchisédek, qui était sans père ni mère, prit le dixième du butin avant la loi, et Christ, fin de la loi, met fin à tous les butins, et rachète les hommes hors des neuvièmes et des dixièmes de la terre pour Dieu, et ici le jour du salut est connu pour régner sur la terre. Car quand l'homme transgressa, chassé de Dieu vers la terre, alors vint la loi, qui était au-dessus de toute transgression et en conduisait hors. Par cette loi il devait offrir le dixième, et Melchisédek avant la loi avait le dixième des butins, mais Christ qui met fin aux guerres mit fin au butin et au dixième, lui qui est l'héritier de toutes choses, l'alliance de Dieu, lui qui réconcilie toutes choses en un, les choses dans le ciel et les choses sur la terre. Les apôtres prêchèrent cela, eux qui étaient dans la puissance de Dieu, qui firent sortir les hommes des neuvièmes de la terre et des dixièmes aussi, et firent sortir les hommes de l'occasion des guerres vers ce qui y mettait fin, à savoir la puissance de Dieu. Mais ceux qui, sortis des apôtres vers la terre, avaient la forme de la piété et en niaient la puissance, et qui entraînèrent le monde après eux, établirent neuvièmes et dixièmes, à la différence des ministres de l'Évangile, qui les menaient hors des neuvièmes et des dixièmes vers l'unité avec la puissance de Dieu, et le Fils, et pour régner sur la terre. Ceux qui prennent des dîmes maintenant ne ressemblent pas à ceux qui prenaient les dîmes sous la loi, ou avant la loi, à qui Abraham donna les dixièmes du butin, et qui les rencontrait avec du pain et de l'eau. Mais ceux-ci maintenant n'ont pas de grenier pour les veuves, les étrangers et les orphelins, afin qu'il n'y ait pas de mendiants parmi eux. Ainsi ceux qu'on appelle prêtres chrétiens, qui ne peuvent obtenir leur dixième sans prison, tribunaux et mandats, et dommages triples, et emprisonnement jusqu'à la mort pour ces dixièmes, sont pires que les juifs. On appelle cela des pratiques chrétiennes de nos jours, par ceux qui ont apostasié des vrais apôtres et de la véritable Église, et de la puissance de Dieu dans laquelle ils étaient, mais l'entretien dont Christ parle pour ses ministres est reconnu. Mais tous ceux qui font commerce des paroles des prophètes, de Christ et des apôtres, qui ont donné leur vie pour les proclamer, nous les nions. Les apôtres ne donnaient pas un salaire à un clerc pour dire Amen, mais cela est venu depuis les jours des apôtres, et est jugé par l'esprit de vérité, et quiconque fera des mensonges d'Alexandros dans son livre intitulé « Une vue de la religion », son refuge est en triste état, et lui et ses mensonges sont condamnés au feu et au lac par la puissance de Dieu. Gloire au plus haut. Réjouissez-vous sur eux, vous les saints. Les dîmes étaient une ordonnance du sacerdoce lévitique, elles devaient être collectées par les prêtres de Lévi et servaient au soutien des orphelins, des veuves, des pauvres et des prêtres lévitiques. Jésus a aboli et annulé le sacerdoce lévitique lorsqu'il a donné sa vie en sacrifice éternel et est devenu lui-même le nouveau sacerdoce. Avec l'abolition du sacerdoce lévitique, il a annulé définitivement l'ordonnance des dîmes. Il n'y a plus de sacerdoce lévitique à qui donner les dîmes, Jésus était de la tribu de Judas. Ainsi, quiconque demande des dîmes est un faux prophète, et quiconque verse des dîmes subit la condamnation de soutenir un faux prophète et une fausse religion. Voir Why Tithing is Wrong et The Beginning of Tithes in the Law and the Ending of Tithes in the Gospel pour en savoir plus sur ce sujet. Richard Mayo, prêtre de Kingston, sa doctrine et ses principes comme suit. Principe. Que la lumière intérieure est la lumière de la nature, qui enseigne à faire toutes les choses que la loi commande et à refuser toutes les choses que la loi interdit. Réponse : ce qui enseigne à faire toutes les choses que la loi commande et à refuser ce que la loi interdit est au-dessus de la nature, c'est ce qui maintient la nature dans son cours, afin qu'elle ne soit pas de feu de colère, mais nous voyons que votre nature est sortie de son cours et qu'elle est tout en feu parmi vous, prêtres et professeurs. Principe : que Dieu a établi une lumière faible en chaque homme. Réponse : la lumière que Dieu a établie en chaque homme n'est pas faible, mais les hommes deviennent faibles quand ils transgressent la lumière que Dieu a mise en eux, pour leur donner la connaissance et le sentiment de lui-même. Principe, il dit que le diable était la puissance de Dieu, et que Christ s'était manifesté pour détruire la puissance de Dieu, et pour détruire celui qui était la puissance de Dieu. Réponse. Le diable, qui est sorti de la vérité, est sorti de la puissance de Dieu, et Christ s'est manifesté révélé dans l'homme pour détruire les œuvres le péché du diable dans l'homme. Christ n'était certainement pas venu pour détruire la puissance de Dieu, bien que Christ soit venu pour mettre fin à toute figure, types et ombres, prêtres, première alliance et temple. Christ, qui est la puissance de Dieu, n'est pas venu détruire la puissance de Dieu, la puissance de Dieu n'est pas divisée contre elle-même, et le diable, qui est sorti de la vérité, la puissance de Dieu, s'est dressé contre Dieu. Ainsi le diable n'est pas la puissance de Dieu, lui qui est sorti de la vérité, qui a tenté d'autres à sortir de la vérité pour transgresser et pécher, par quoi la mort est venue, et par quoi le diable, sorti de la vérité, a le pouvoir de la mort. C'est donc la puissance de la mort que Christ, puissance de Dieu, détruit, et celui le diable qui en a la puissance, principe. Mais Yoadi, dire que l'évangile est la puissance de Dieu n'est qu'une manière de parler métaphorique. Réponse, l'apôtre ne dit pas cela, car l'apôtre a dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, en termes clairs, Romains 16. Quelle puissance est l'évangile? Si tu as la véritable espérance, tu reconnaîtras le véritable évangile, dont la puissance te nettoie, te purifie, te rend parfait, s'unit à toi, et te transfère dans le royaume de Dieu. Sans la véritable espérance, sans la croix, sans la puissance du nom de Jésus, la puissance de Dieu n'est pas libérée pour te délivrer du péché. Principe. Il a dit que, par cette lanterne ou lumière dont parlent les psaumes, qui était une lumière sur le sentier de David, on n'entendait pas Christ la parole. Réponse. Pourquoi alors l'apôtre apporte-t-il souvent les paroles de David pour prouver que David parlait de Christ, et qu'il parlait des surgrâces de David, de l'alliance éternelle de lumière à David et à ses fils pour toujours, et que, dans sa lumière, il verrait davantage de lumière, et qu'il appelait le Seigneur sa lumière. David a vu sa chair qui ne verrait pas la corruption, et sa résurrection, et beaucoup d'autres écritures pourraient être apportées pour le prouver. Principe. Il a dit, « Les écritures étaient la semence que le semeur sortit pour semer, Matt 13, qui est le semeur, qui sème la semence, qui prononce la parole de Dieu. » C'est évidemment le Saint-Esprit que Jésus a promis de nous donner pour nous conduire dans toute la vérité, nous enseigner toutes choses, et qui convainque le monde entier. Or, puisque le Saint-Esprit est le semeur, penses-tu qu'il lise des Écritures aux gens? Ou si tu penses que le Saint-Esprit t'enseigne quand tu lis la Bible, pose-toi ceci, 1. Comment peux-tu apprendre toutes choses et toute la vérité en lisant la Bible? Toutes choses et toute la vérité ne sont pas dans la Bible. 2. Si tu peux apprendre du Saint-Esprit en lisant la Bible, pourquoi, avec des millions de personnes lisant la Bible chaque jour, y a-t-il aujourd'hui 41 000 sectes différentes dans la chrétienté, chacune ayant une opinion différente sur ce que la Bible signifie, alors que le but déclaré du Saint-Esprit est l'unité? Il est clair que le semeur est le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit dit des paroles à ses auditeurs dans leur cœur, en reconnaissant pleinement leurs caractéristiques et besoins individuels, dans un langage adapté à chaque auditeur, dans des visions de leurs expériences passées pour illustrer ses enseignements, et au sujet d'innombrables thèmes et mystères bien plus nombreux que ceux inclus dans les Écritures. Réponse. La semence est ce dont parle l'Écriture, et que Christ a dit être la parole, et beaucoup qui ont l'Écriture ne connaissent pas la semence, ni la chose dont elle parle, ni la semence qui est semée, qui est la parole, comme en témoignent les Juifs et vous, chrétiens, qui mettez l'Écriture à sa place. Car si l'Écriture est la semence, elle est déjà semée, elle est imprimée, alors pourquoi avez-vous besoin de sortir pour la semer? Principe, il a dit que Paul, dans Ephésiens 5, 18, exhorte les Éphésiens à suivre une lumière qui n'était pas la lumière de l'Évangile, et il a dit qu'il ne pouvait pas prouver par une écriture claire, en tant de mots, qu'aucun des ministres de Christ exhorte les saints à suivre une lumière qui serait la lumière de l'Évangile. Réponse. En cela nous voyons sa confusion, lui qui se confond lui-même, et dans l'Épître aux Éphésiens ce qu'il dit ne pas être la lumière de l'Évangile, que tout le peuple lise, Paul leur dit de ne pas s'enivrer de vin mais d'être rempli de l'Esprit. Et c'est là la lumière de l'Évangile, qui éclaire tout homme venant au monde, que les ténèbres ne peuvent saisir, où il est dit, car le Dieu de ce monde Satan a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin que la lumière du glorieux Évangile de Christ ne brille pas en eux de Corca. C'est pourquoi ils s'emportent comme les Juifs, et professent la lettre comme les Juifs, se tenant contre la lumière, par laquelle lumière ils sont saisis, elle qui était avant les âges. Principe, il a dit que la persécution des saints par Paul était une chose juste aux yeux des hommes, et il a dit qu'il niait que ceux qui pratiquent la loi soient justifiés de manière à être sauvés. Réponse. La persécution des saints par Paul n'était pas une chose juste parmi les hommes justes, qui étaient dans la justice de Dieu, car Christ, la justice de Dieu, a dit, « Paul, pourquoi me persécutes-tu ? » Or, la persécution de Paul était justifiée par ceux qui étaient dans la justice propre, hors de la justice de Christ, et ceux qui sont dans cette justice-là peuvent justifier toi et ta persécution. Et ceux qui pratiquent la loi sont justifiés, et ceux qui sont justifiés sont sauvés, et Christ, fin de la loi, qui rachète ceux qui sont sous elle, ils viennent à le connaître comme le salut lui-même. Ainsi moi par la loi, je suis mort à elle, et je sais qu'elle est un pédagogue, et que la justice de la loi s'accomplit en moi. Principe. Et qu'un homme peut être un homme juste, et ne pas être un homme pieux. Réponse : un homme juste dans la justice de Christ est un homme pieux, chez qui la justice de la loi est accomplie, mais un homme juste dans la justice propre est impie. Principe : qu'un homme puisse être justifié par Dieu, et pourtant condamné par sa propre conscience, et justifié par sa propre conscience et condamné par Dieu. Réponse : un homme qui est justifié par Dieu n'est pas condamné par sa propre conscience, car le mystère de la foi se garde dans une conscience pure, en laquelle les hommes sont justifiés devant Dieu. Et un homme qui est condamné dans sa propre conscience n'est pas justifié devant Dieu, ce qui condamne, c'est la lumière, et c'est là la cause de la condamnation, la haïr et ne pas y croire, et c'est de là que vient que la conscience se cautérise, d'où vient la condamnation, et cela, dans l'Épître aux Romains, ne prouve rien de ce que vous avancez. Principe : que tout croyant n'a pas le témoignage en lui. Réponse : cela est contraire à l'Écriture et aux ministres de la doctrine du Christ, qui disent « Celui qui croit a le témoignage en lui-même noté, lui, et après avoir cru, il vient à être scellé de l'Esprit de la promesse et peut apposer son sceau que Dieu est vrai, et en vient à croire le témoignage de son Fils, qui est l'Esprit qui rend témoignage de toutes choses. » Principe : que l'Évangile n'est pas la puissance de Dieu. C'est un déni des paroles même de Romains 1, 16 « Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Cet homme nie toute écriture qui ne cadre pas avec les doctrines qu'il s'imagine pour justifier des hommes pécheurs comme s'ils étaient des saints. Il le nie manifestement parce qu'il n'a jamais fait l'expérience de la puissance de Dieu, et par conséquent il n'a aucune idée de ce qu'est l'Évangile, pourtant il prétend prêcher l'Évangile et être un ministre de l'Évangile. Réponse : l'Évangile est la puissance de Dieu, en cela vous êtes contraire aux ministres de l'Évangile, qui ont dit que l'Évangile était la « puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit », et en cela vous vous êtes montré incrédule. Principe : il ferait dire un blasphème au Christ, en omettant la moitié de ses paroles. Réponse : c'est faux, vous ne pourriez pas faire parler le Christ, la puissance de Dieu, la lumière, la vie, la vérité en blasphémant, en retranchant beaucoup de ses paroles, car tout blasphème est hors de la vérité et hors de la puissance de Dieu, et dans la puissance et la vie de Dieu il n'y a point de blasphème. Principe : qu'un homme puisse persécuter le Christ dans les saints, et être un homme juste, et que les Écritures sauvent instrumentalement. Cet homme n'a aucune idée de la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, a enseigné et est mort. Si un homme peut persécuter le Christ dans les saints, alors les Juifs qui ont tué Étienne auraient pu être justes. Alors les Romains qui ont tué Pierre et Paul auraient pu être justes. Alors les Juifs qui ont décapité Jacques pourraient être justes. Alors Paul, qui se considérait comme le pire des pécheurs pour avoir persécuté les chrétiens lorsqu'il était seul, pourrait s'être trompé et avoir en réalité été juste, avant que le Christ ne l'aveugle sur le chemin de Damas. Si quelqu'un peut être juste en tuant le Christ dans les saints, alors les Juifs qui ont frappé le Christ, lui ont craché dessus et ont exigé sa crucifixion ont peut-être été justes aussi. Nul homme n'est juste qui persécute un autre homme, quel que soit l'esprit que l'autre homme ait. Le Christ nous a dit d'aimer nos ennemis, non de les persécuter. Commencez-vous à voir combien les ministres instruits par les hommes sont sans aucune valeur, et qu'en fait ils ne sont que des instruments involontaires de Satan pour tromper et captiver les gens qui veulent plaire à Dieu. Réponse : un homme ne peut pas persécuter les saints et être dans la justice de Dieu, ni dans la justice de la loi. Ceux qui persécutent le Christ sont dans leur propre justice. L'Écriture ne sauve pas instrumentalement, mais lorsque les hommes sont dans la foi, et les hommes ne connaissent pas le salut, s'ils ne sont pas dans la vie qui a produit les Écritures, et dans le Christ, le Sauveur dont elles parlent, et c'est là le salut instrumental auquel l'Écriture rend témoignage. Le Christ demanda à ceux qui avaient les Écritures comment ils pourraient échapper à la damnation de la géhenne, eux qui étaient hors de la vie, vous serpents, race de vipères, comment échapperez-vous à la damnation de la géhenne ? Matt 23, 33 principes. Ceux qui ne juraient pas enfreignaient la loi de Dieu et des hommes. Voici le cas classique d'une torsion des Écritures pour leur faire dire exactement l'opposé de ce qu'elles disent. La seule façon pour un soi-disant ministre de s'en tirer avec de telles abominations, c'est que ses auditeurs sont trop paresseux pour lire eux-mêmes les Écritures et trop disposés à accepter l'autorité de quelqu'un qui a été éduqué dans les écoles des hommes. Cessez de vous confier en aucun homme dont le souffle est dans ses narines, car de quelle valeur est-il ? Mais tournez-vous vers moi, vous tous, extrémités de la terre, et soyez sauvés, dit le Seigneur. Ésaïe 2, 22, 45, 22, réponse. Ceux qui jurent ne sont pas venus à Christ, la fin de la loi, et ils sont hors de la doctrine du Christ et des apôtres, qui ont dit, « Ne jurez point du tout, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, de peur que vous ne tombiez sous la condamnation, car tout ce qui est au-delà vient du mal. » Ainsi tous les jureurs sont dans le mal, ce sont de faux frères, ils tombent sous la condamnation, ils sont hors de la doctrine du Christ, et transgressent son commandement, et ne sont aucunement ses ministres. Principe. Ils croyaient en un Christ mort à Jérusalem, mais non en un Christ au-dedans. Réponse. Celui qui ne croit pas en un Christ au-dedans ne croit pas en un Christ à Jérusalem, et celui qui ne croit pas en un Christ au-dedans, et ne prêche pas le Christ au-dedans, est un réprouvé, et hors de la doctrine des apôtres, Col 1:27, de Cor 13:5, et il n'est pas un véritable croyant au Christ du dehors, celui qui ne croit pas en un Christ au-dedans, mais il est dans la croyance du diable et croit comme le diable. Principe que s'il y a une grâce au-dedans, elle est créée, et qu'il ne croit en aucune chose créée. Réponse. La grâce qui est au-dedans, qui a fermi le cœur, est apportée par la révélation de Jésus, les reins de l'entendement saint. Il connaît la grâce par laquelle il est sauvé, laquelle apporte le salut, laquelle est suffisante. Cela vient du Créateur, et cette grâce nous enseigne, on dit les saints, à renoncer aux convoitises impies et à vivre sobrement. Principe. Cette lumière dont le Christ a éclairé tout homme est charnel et ténèbres. Dieu est lumière, 1 Jean 1:5, et certainement pas charnel et ténèbres. Pourquoi est-il si difficile de comprendre que Dieu et le Christ sont infinis, sans mesure, et peuvent être partout dans toute la création, y compris demeurer dans le sommet de leur création? L'homme, ne mettez pas de limites à l'étendue, la taille, la puissance, la grandeur et la portée du Saint d'Israël. Réponse. La lumière, dont le Christ a éclairé tout homme venant au monde, existait avant que le charnel ou les ténèbres ne fussent, et en y croyant, elle conduit tout homme hors des ténèbres et de son état charnel, dans l'unité avec Dieu, car nul homme ne voit son état charnel et ses ténèbres que par la lumière qui les rend manifestes. Et la lumière qui éclaire tout homme venant au monde est ce sur quoi tous les professants qui étaient sans vie, en tous les âges, ont trébuché. Principe. Ils ne connaissaient aucune écriture disant que le monde était dans le cœur de l'homme et que c'était une absurdité. Réponse. Vous ignorez les paroles de Salomon, qui a dit Éclat 3:11, il a mis le monde dans leur cœur, de sorte qu'ils ne peuvent découvrir ni le commencement ni la fin de l'œuvre de Dieu. Et ici vous vous êtes montré issu de l'abîme, sans le commencement ni la fin de l'œuvre de Dieu, et celui qui n'est pas dans le commencement ni dans la fin de l'œuvre de Dieu est dans l'absurdité. Principe. Que les hommes ne peuvent être sauvés s'ils n'ont pas d'autre lumière. Réponse. La lumière qui a éclairé tout homme venant au monde est le Sauveur, et nul homme n'est condamné sinon pour n'avoir pas cru en cette lumière, et nul homme n'est sauvé sinon ceux qui croient en cette lumière. Principe. Qu'il n'y a pas de perfection atteignable dans cette vie. Jésus nous a commandé d'être parfaits comme notre Père qui est aux cieux est parfait. C'est une perfection autant qu'il est possible, une qualification définitive de parfait. Pour nier que ce commandement soit possible, il faut soit 1. Nier la vérité des Écritures, soit 2. Conclure que Jésus est un menteur, soit 3. Conclure que Jésus est injuste en nous commandant de faire quelque chose d'impossible. Bien sûr, aucune de ces trois choses n'est vraie, la perfection est possible, et la croix intérieure du renoncement à soi-même est le chemin vers la perfection. Et Jésus nous dit la seule chose que nous devons faire. Jésus a dit, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée, s'asseoir aux pieds de Jésus et entendre sa parole. » Luc 10, 39-42 « Entendre sa parole, c'est écouter la parole de Dieu dans votre cœur. » Rome 10, 8-17 « C'est s'asseoir aux pieds de Jésus et écouter sa parole, les paroles qu'il nous adresse du dedans de nos cœurs, qui sont esprit et vie. » Nous aussi, nous devons nous asseoir en silence et attendre le Seigneur pour écouter, entendre et obéir. C'est une croix pour la volonté d'un homme que de s'asseoir en silence, luttant pour empêcher son esprit d'errer. C'est une croix pour la volonté d'un homme d'obéir à ce qui lui est commandé et enseigné par le Saint-Esprit. C'est là la croix par laquelle vous devez vous renier et que vous devez prendre chaque jour pour suivre Jésus. Suivre, c'est obéir. Vous ne pouvez être son disciple si vous ne prenez pas votre croix quotidiennement, écoutez en silence, et ne suivez pas ses ordres. Suivre ses commandements, c'est renoncer à votre volonté, et faire plutôt sa volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le salut n'est reçu que par ceux qui suivent l'agneau partout où il va, qui obéissent pleinement à la voix du Seigneur, en tout ce qu'il commande. Ne vous découragez pas si vous n'entendez rien pendant un certain temps. Même votre attente vous est comptée. Que ta miséricorde, ô Éternel, soit sur nous, à proportion de notre attente et de notre espérance en toi. Psaume 33:22. Car depuis le commencement du monde, on n'a point entendu, on n'a point perçu par l'oreille, et l'œil n'a point vu un Dieu autre que toi, qui agisse pour celui qui l'attend. Ésaïe 64:4. Réponse. Seule perfection impossible, pour ceux qui sont dans la méchanceté, dans la vie d'Adam, dans la transgression. Et là les hommes vivent dans le péché, et l'ont dans leur corps, et portent un corps de péché et de transgression, qui est venu par le diable. Mais le Christ, le second Adam, détruit le diable et ses œuvres, et la puissance de la mort, lui qui sauve les hommes du péché et efface le péché et la transgression et rachète de la terre, et ceux qui sont en Christ, le second Adam, sont dans la perfection et dans ce qui est parfait. et l'œuvre des ministres du Christ était le perfectionnement des saints. Et vous qui niez la perfection, vous avez nié l'œuvre des ministres du Christ, qui prêchent le Christ au-dedans, et ont prêché chacun parfait en lui. Principe que l'Écriture est la parole de Dieu. Réponse : les Écritures sont les paroles de Dieu, comme vous pouvez le lire dans l'Exode, Matthieu et l'Apocalypse, et Christ est la parole de Dieu, en qui les paroles prennent fin, avant que les paroles aient été prononcées, et l'homme sans l'esprit ne peut interpréter les Écritures. Principe : que les ministres de cette nation sont les ministres du Christ et de l'Évangile, et que c'est un péché de les mépriser. Réponse : les ministres de cette nation, ou d'ailleurs, ne sont pas les ministres du Christ et de l'Évangile s'ils nient la lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et s'ils soutiennent le serment. Ils ne sont pas non plus des hommes capables d'interpréter les Écritures, car ils ne peuvent voir sans la lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et qui était avant que le monde fût fait, qui est la fin des prophètes, par laquelle on voit les paroles des prophètes et leurs termes. Et ainsi, il faut se détourner de ce dont il a été parlé ci-dessus, qui se détourne de la lumière, et ce n'est point un péché d'obéir au commandement des apôtres, 2 Tim 3:5, de se détourner de ceux qui se sont élevés depuis la mort des apôtres, ayant la forme mais reniant la puissance. Principe est qu'ils peuvent légitimement prendre les dîmes du peuple. Réponse : et vous qui prenez les dîmes du peuple, vous êtes de la tribu du pape, survenue depuis les jours des apôtres, lesquels ont dit que la sacrificature avait été changée, celle qui prenait les dîmes, que la loi par laquelle la sacrificature avait été établie avait été changée, et que le commandement qui donnait les dîmes avait été annulé. Et Christ était la somme, la fin de toutes les figures, lui qui était avant Abraham qui paya des dîmes, Ebset. Le pape est votre auteur pour prendre les dîmes, dans l'apostasie depuis les jours des apôtres, et Christ est la fin de la loi. Lisez Hébreux 7 pour voir que la sacrificature lévitique a été supprimée par le Christ lui-même, qui est devenu notre prêtre pour toujours. Lorsqu'il a remplacé la sacrificature, il a annulé toutes les ordonnances de cette sacrificature, dont la dîme faisait partie. Pour en savoir plus sur ce sujet, voir pourquoi la dîme est mauvaise et le commencement des dîmes dans la loi, et la fin des dîmes dans l'Évangile. Principe : Richard Meyo a dit qu'il n'est pas illégal de dire « vous » à une seule personne. Réponse : en cela vous montrez que vous n'avez jamais lu l'accidence manuelle de grammaire de l'Angleterre de l'époque ni la Bible, et il est illégal de parler injustement, et de dire qu'ils sont plusieurs quand il n'y en a qu'un, d'appeler un seul plusieurs, ou de dire « vous » à un seul. Faire acception de personne est un péché, Jacques 2, 9. Le Seigneur commanda aux premiers Quakers de refuser d'honorer des personnes importantes au singulier par le mot « vous », qu'elles exigeaient comme signe de respect. Pourtant, les personnes sans importance n'étaient jamais interpellées par « vous », mais seulement par « toi ». Aujourd'hui, toutes les classes et professions sont appelées « vous », rendant caduque le commandement du Seigneur qui s'appliquait au XVIII siècle. Principe : que les ministres peuvent exhorter les hommes à marcher selon la lumière de la raison, autant que selon la lumière de l'Évangile. La raison, c'est l'usage de l'esprit charnel, qui est inimitié contre Dieu. Marcher selon la lumière de la raison, c'est marcher selon la chair et l'imagination de son propre cœur. Marcher selon l'imagination de son propre cœur est pire que d'adorer des idoles. Jer 16, 11, 12 Pourtant ils disent à tous ceux qui marchent selon l'imagination de leur propre cœur, aucun mal ne vous arrivera. Jer 23, 17 La lumière de la raison est un oxymore, il n'existe aucune référence scripturaire à une telle chose, on ne marche pas par une lumière qui analyse puis choisit une ligne de conduite. La lumière montre la ligne de conduite, incite à la ligne de conduite. La lumière ne présente pas toutes les alternatives possibles pour chaque action puis ne raisonne pas avec vous pour expliquer pourquoi une alternative serait meilleure qu'une autre, c'est ce que fait l'esprit charnel, à l'opposé de marcher dans la lumière par la foi. Réponse : nul homme ne marche selon la lumière de la raison, sinon celui qui est dans la foi, qui est dans la lumière de l'Évangile, et toute autre raison est comme celle des bêtes des champs. Ce qui rend les hommes raisonnables, c'est la foi, et tous ceux qui sont dans la foi sont dans la lumière de l'Évangile, et cela est un hors duquel est toute déraison et dans la transgression, car nul n'est dans la raisonnabilité, sinon ceux qui sortent de la transgression, et ceux qui sont raisonnables marchent selon la lumière de l'Évangile. Principe que l'Évangile lui-même n'est qu'une lettre morte. Non, ce n'est pas l'Évangile, mais les livres appelés Évangiles qui sont lettres mortes. L'Évangile est un mystère, les livres ne le sont pas. L'Évangile est la puissance de Dieu, les livres ne le sont pas. L'Évangile est prêché par la parole éternelle du Seigneur, qui est Jésus, non par un livre. Cet homme pense que les Évangiles notés, au pluriel, Évangiles sont les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces livres ne sont pas l'Évangile du Christ. Les livres parlent de l'Évangile, mais ne sont pas l'Évangile. Mais au moins cet homme sait que l'Écriture est lettre morte, car la lettre tue, seul l'Esprit vivifie, 2 Cor 3, 6, seules les paroles qui te sont dites par l'Esprit communiquent la vie, Jean 6, 63 réponses. L'Évangile lui-même est la puissance de Dieu, dont la lettre l'Écriture parle, et beaucoup peuvent avoir la lettre, la forme, et nier la puissance de Dieu, et ainsi n'ont pas l'Évangile. Principe. Que l'Évangile n'est pas plus la puissance de Dieu que le gâteau à la rose posé sur sa fenêtre. Il nie clairement l'Écriture, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. Car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec, Romains 16, ce qui montre encore qu'il ne sait pas ce qu'est l'Évangile, bien qu'il prétende être un prédicateur de l'Évangile, ce qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Réponse. L'Évangile est la puissance de Dieu prêchée à toute créature, bien plus qu'un gâteau à la rose. L'Évangile donne à toute créature sa vie et son être, car il secourt l'opprimé et se dresse contre l'oppresseur. C'est pourquoi on l'appelle Bonne Nouvelle, car l'Évangile a été prêché à toute créature au ciel. L'Évangile est la puissance de Dieu qui se dresse contre ce qui a servi, à savoir les corruptions, et ainsi donne liberté et affranchissement aux captifs. Et cela, qui est la puissance de Dieu, est une bonne nouvelle, et est plus que toute créature, et que toutes les créatures. Ce qui donne liberté et affranchissement à tous est une bonne nouvelle. Principe. Richard Meillot dit encore, cela lui importait peu que le diable soit l'instigateur des dîmes, si la loi du pays les lui accordait, il les prendrait. Réponse. Nous vous croyons, vous êtes son du diable serviteur, votre conscience cautérisée et la dureté de votre cœur le révèlent. Mais les ministres du Christ et de l'Évangile n'ont jamais prêché ni présenté une telle doctrine, ni n'agiraient jamais sur quoi que ce soit dont le diable serait l'instigateur. Et vous, vous dites que vous prendriez les dîmes, même s'il en était l'instigateur, si la loi du pays vous les donnait. Il en a été l'origine, et les lois du pape les ont d'abord établies, par lesquelles les biens des saints sont saisis, vendus et ravagés. Et vous ne vous contentez pas de la saisie et de la vente de leurs biens, mais vous amenez leurs corps dans votre tanière de prêtre, et ainsi vous dévorez le peuple et engloutissez les nécessiteux pour une chose de rien, comme ils faisaient autrefois, comme vos pères transgressaient pour une paire de chaussures. Principe, il a dit, Carin n'était pas vagabond après qu'il eut bâti une ville, et il a dit, il n'y a pas d'écriture disant que les apôtres n'avaient pas de demeure certaine, et que la maison au clocher était l'église, autre déni honteux de l'écriture, et l'Éternel dit à Carin, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et il dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis le sol. Et maintenant, tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te rendra plus sa force, tu seras fugitif et vagabond sur la terre. » Eugène 4:9-12 réponse. Cela est contraire à l'Écriture, car Caïn, bien qu'il bâtît une ville, était un vagabond et désobéit au commandement de Dieu, et perdit sa demeure en Dieu. Ainsi tous les grands hommes sur la terre, bien qu'ils bâtissent une ville, et soient seigneurs, comtes, ducs, princes et rois, s'ils désobéissent au commandement de Dieu et ne demeurent pas en lui, n'ont point de demeure mais sont tous des vagabonds. Et bien que Paul n'eût pas de demeure certaine, 1 Cor 4:11, il avait pourtant une demeure en Dieu et n'était pas un vagabond. Et la maison au clocher n'est pas l'église, mais l'ancienne maison de la messe, établie depuis les jours des apôtres, depuis qu'ils ont perdu la véritable église. 1. Principe du prêtre Buchel. Ces paroles furent publiées par Cesse Buchel, prêtre de Whitley, comme suit le 25 jour du premier mois, 1658. Principe. Les hommes ne sont pas convertis par la lumière en eux. Réponse. Si le Christ n'est pas en vous, le corps est mort, et il est lumière au-dedans. Et la lumière qui brille dans le cœur donne la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, dans la face de Christ Jésus. Et nul n'est converti sinon ceux qui sont en lui, et ils sont convertis par lui au-dedans. Et la lumière qui brille dans le cœur donne la connaissance de la conversion et de l'absence de conversion, et nul n'est venu à la conversion sinon par elle, la lumière, qui est le Christ. Principe. Il a dit qu'il nie que la lumière qui éclaire tout homme soit le Christ, comme Jean en parle, Jean 1, 9. Réponse. En cela vous avez nié la doctrine de Jean, qui a dit, « Il est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et ainsi vous êtes ignorants des Écritures, et plus encore de la puissance de Dieu. Principe. Il a dit, « La lumière dont tout homme est éclairé n'a jamais converti aucun homme à Dieu. » Réponse. Ici, dans votre doctrine, vous cherchez à prouver que le Christ n'a jamais conduit personne à Dieu, lui qui est la lumière, qui éclaire tout homme venant au monde, lui qui est le chemin vers le Père, qui sauve les hommes du péché, détruit la mort et celui qui en a la puissance, et introduit les hommes dans ce dont le diable est exclu. Vous et vos doctrines êtes saisis et condamnés par la lumière, et nul homme n'est converti à Dieu sinon par la lumière, qui a éclairé tout homme venant au monde. Principe. Il a dit, que la lumière qui éclaire tout homme est la voie large. Réponse. Ici chacun peut voir que ce prêtre est un ministre des ténèbres et de la méchanceté, car la lumière qui éclaire tout homme est le Christ Jésus, qui est le chemin vers le Père, et conduit le peuple hors de la voie large, qui est survenue par Adam, le péché, le diable et la transgression, et tous ceux qui nient la lumière sont dans la voie large. Heure fort, le 8 jour du premier mois, 1658, ces paroles furent prononcées dans une assemblée par Edward Price et Philip Langford, et ce sont leurs principes. Principes. Philip Langford a dit, Paul n'a pas été libéré de l'acte du péché pendant cette vie. Réponse. Paul rend grâce à Dieu d'avoir été rendu libre du corps du péché, et il a vu qu'il n'y avait point de condamnation, et ainsi il lutte et combat contre Paul, qui a dit qu'il avait été rendu libre du péché et ne pouvait plus y vivre, et que le corps du péché avait été dépouillé, et que sa citoyenneté était dans les cieux, et qu'il avait été crucifié avec le Christ. Paul ne vivait plus, mais le Christ vivait en lui à sa place. Principe, nous affirmons que ceux qui sont dans cette foi qui détourne du péché, sont assujettis au péché, à l'acte du péché, tant qu'ils sont dans ce corps mortel. Comment peut-on être détourné du péché, tout en demeurant assujetti au péché, autrement que temporairement le temps d'achever de se détourner? Réponse. C'est confusion et contradiction, et ce n'est pas une saine doctrine, car la foi qui purifie le cœur du péché donne la victoire sur lui, en elle les hommes plaisent à Dieu et ont accès à lui, par la foi ils sont justifiés pendant qu'ils sont sur la terre, et par la foi le juste vivra, et la vie à laquelle les saints viennent à vivre, qui leur donne la victoire sur le monde, est par la foi du Fils de Dieu. Principe, le prêtre Price a dit, la foi en Jésus-Christ ne purifie pas des demeures du péché pendant que l'on est dans ce corps. Réponse. Jésus a dit à Paul, « Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux et les détourner des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage du péché, et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés et purifiés par la foi en moi. » Acte 26, 17-18. Réponse. En cela l'Écriture vous a corrigé, car elle dit, « La foi purifie le cœur, ce qui purifie ôte le péché, lequel, étant impur en lui-même, rend impur. » Principe, il a dit, « La culpabilité du péché peut être ôtée, mais l'acte du péché peut demeurer. Celui qui ôte la culpabilité du péché, c'est le diable, non le Seigneur. Plus un homme pêche, plus le diable cautérise la conscience de l'homme, de sorte qu'il ne ressent plus de culpabilité du péché. Si vous ne ressentez aucune culpabilité en péchant, malheur à vous, car votre conscience a été tuée. Cet homme veut croire que le Christ est venu nous libérer de la culpabilité du péché plutôt que de nous délivrer, nous les captifs, du péché. Si le Christ est venu nous libérer de la culpabilité du péché, il est venu rendre le péché plus facile, il est venu promouvoir le péché, ce qui est complètement à l'opposé de ce à quoi Dieu et le Christ s'opposent. Le péché sans culpabilité est la coupe enivrante que la prostituée de Babylone offre, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Apoc 17:2, le vin de sa fornication est la fausse promesse de vivre dans les convoitises et l'orgueil sans conséquence de la fureur de Dieu, le péché sans pénalité, la doctrine du diable. Réponse. Vous êtes comme l'un des anciens docteurs dont parlent les Écritures. Commettez-vous le péché sans en ressentir la culpabilité? Vous chargez le monde entier sur votre tête, le principe de Dieu en tous en rendra témoignage contre vous. Interrogez tous les voleurs condamnés à la potence, et les ivrognes, et ceux qui commettent le péché, ceux qui professent les Écritures mais ne sont pas dans leur vie, s'ils n'ont pas ou non une culpabilité sur eux pour avoir commis le péché. Mais c'est là un des principes des prêtres aveugles, nuls, sinon des hommes insensés, ne les croira, méchants menteurs contre ce qui est de Dieu dans leur propre conscience, ainsi ils prêchent la doctrine mensongère du diable. Fox dit que nul, sinon des hommes insensés, ne les croira, que la culpabilité est ôtée mais que le péché demeure. Comme les temps ont changé du XVI siècle au XXI siècle, car tout le christianisme fondamental croit exactement cela aujourd'hui. En fait, les membres actuels de la chrétienté sont si habitués à pécher sous le regard de Dieu qu'ils ont souvent moins de maîtrise de soi que les païens, lesquels savent par leur conscience que le péché est mauvais, mais ne pensent pas que Jésus soit leur excuse pour toutes sortes d'immoralités et d'impuretés. Principe. Edward Price a dit « Que tous les hommes doivent être jugés par les Écritures » et que les Écritures sont la puissance de Dieu. Le Christ, qui est la puissance de Dieu, a reçu toute puissance au ciel et sur la terre. Qui peut imaginer que toute puissance au ciel et sur la terre se trouve dans un livre R? L'Écriture a dit, « Christ est la puissance de Dieu », et l'apôtre a dit, « La lettre tue, et tout jugement a été remis au Fils », disent les ministres du Christ. Et les Écritures sont les paroles de Dieu, et Christ est la parole et le juge, en qui les paroles prennent fin, vous l'avez rejeté, et vous avez mis l'Écriture à sa place, et quant au reste de ces paroles, elles ne valent pas la peine d'être mentionnées. Principe d'Enoch Rawit. Principe. La doctrine de la perfection dans la créature est un mensonge. Alors des dizaines d'Écritures sont des mensonges, cliquez pour les voir. Réponse. La doctrine de la perfection dans la créature, c'est le Christ, qui détruit le diable et ses œuvres, et lie l'homme fort, et pis ses biens, et en prend possession pour lui-même, et la créature est une créature parfaite hors de la transgression. Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et telle est la doctrine de la perfection dans la créature. Et Christ fait toutes choses nouvelles, et vous, qui ne pouvez attester rien qui soit rendu nouveau, vous êtes dans les choses anciennes, exaltant l'imperfection, et ce qui est parfait est ce qui amène les hommes à confesser leurs péchés, et cela se trouve dans la créature. Thomas Hodge, recteur dans l'Oxfordshire, bachelier en théologie, a dit principe. Que le Saint-Esprit parle dans les Écritures. Réponse, ici tous peuvent voir son ignorance, et si cet homme est apte à être recteur, lui qui est ainsi corrigé par les Écritures, lesquelles disent que le Saint-Esprit a animé ceux qui ont produit les Écritures, mais elles disent la lettre était morte et ne donnait pas la vie. Ainsi il dirige vers les ténèbres, en disant au peuple que le Saint-Esprit est dans l'Écriture, alors que l'Écriture n'a jamais tenu ce langage, mais a dit qu'il était en ceux qui l'ont produite, car beaucoup peuvent avoir les Écritures et manquer du Saint-Esprit, comme les pharisiens, principe. À la loi et au témoignage, et vous ne vous ferez aucune image taillée de ce qui est au ciel ou sur la terre. Réponse, je dis à la loi et au témoignage avant que Matthieu, Marc, Luc et Jean, les Épîtres et l'Apocalypse aient été écrits, la loi est lumière, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, comme aux jours anciens, Ésaïe 8. Et vous avez dit au peuple que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, mais le Nouveau n'avait pas encore été écrit de son temps, au jour d'Ésaïe. Pourquoi faites-vous des images de choses du ciel et de la terre, et les accrochez dans vos maisons et sur des enseignes, tout en disant qu'on ne doit pas les faire, car c'est une violation du commandement de Dieu? De qui avez-vous appris à faire toutes ces images de choses du ciel et de la terre depuis les jours des apôtres, sinon de ceux qui sont sortis des apôtres, la tribu du pape dont vous êtes? Richard Heath, prêtre à Shrewsbury. Ces principes sont les suivants. Principe, qu'en attirant les gens vers une lumière au-dedans d'eux, vous les tirez de Dieu vers eux-mêmes, loin de l'instruction de l'Esprit. Réponse, ici vous êtes un ministre à l'opposé de l'apôtre, qui amenait les gens à une lumière au-dedans d'eux, 2 Corinthiens 4, 6, et leur disait que la lumière qui brillait dans leur cœur leur donnerait la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. Et ainsi nul ne vient à la connaissance de l'Esprit, sinon ceux qui viennent à la lumière au-dedans et hors d'eux-mêmes, quand bien même ils auraient les Écritures comme les Juifs les avaient, principe. Si nous, ministres, envoyons les gens de toutes les autres lumières à la lumière au-dedans d'eux, nous les détournerions alors de la lumière vers les ténèbres, de Dieu vers la puissance de Satan. Cet homme déforme délibérément l'Écriture pour soutenir son argument. Voici l'Écriture qu'il déforme, pour leur ouvrir les yeux et les détourner des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage du péché, et un héritage parmi ceux qui sont purifiés par la foi en moi. Actes 26, 18. Réponse. Nul ne vient à Dieu sinon ceux qui viennent à la lumière au-dedans, hors de la puissance de Satan et des ténèbres, et Dieu demeurera en eux, et marchera en eux, et établira sa demeure en eux, lui qui est lumière et la fin de toutes les autres lumières avant qu'elles fussent. Vous qui détournez les gens de la lumière, vous les détournez vers les ténèbres, la puissance de Satan, et vous les y maintenez sous sa domination, loin de la lumière du Christ Jésus qui éclaire tout homme venant au monde, par laquelle il pourrait voir leur sauveur. Daniel Gaudry, prêtre de Great Billing dans le Northamptonshire. Ses principes suivent. Principe. Que les saints sont en partie pécheurs, et défaillants dans leurs meilleures œuvres, et sujets à se convoiter continuellement les uns les autres. Sur ces saints, qui sont en partie pécheurs, défaillants dans leurs meilleures œuvres et convoitant continuellement les uns contre les autres, si tel est le sort des vrais saints, pourquoi même aspirer à devenir un saint, qui n'est pas meilleur qu'un diable dans sa conduite? Le problème, ce sont des saints de fantaisie, qui ont totalement mal interprété l'Écriture en pensant qu'ils sont qualifiés de saints parce qu'ils croient en Jésus, en ignorant toutes les exclusions, les exigences et les conditions qualifiantes de la foi clairement énoncées dans l'Écriture. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean 3, 8. Réponse. La vie des saints est Christ, nullement pécheresse, et ils ont cessé leurs propres œuvres, et sont de vrais croyants. Et les œuvres de la foi ne sont pas pécheresses, ni les œuvres de l'esprit par lesquelles les saints sont conduits, et ils entrent en Christ en qui ils ont la paix, et ne convoitent pas les uns contre les autres, mais vivent dans l'esprit où il y a unité, où se trouve le lien de la paix, et convoiter les uns contre les autres est dans la transgression contre l'esprit de Dieu. Ainsi ceux qui sont en Christ sont dans la paix, et ceux qui sont dans le monde sont dans le trouble, dans les guerres, mais ceux qui sont en Christ sont en celui qui était avant que les guerres fussent intérieures ou extérieures, et dont vous êtes ignorants. Principe, le sang de Christ purifie de tout péché, de sa culpabilité, instantanément et parfaitement, de sa tâche et de sa puissance graduellement. Réponse. Là où il y a péché, la culpabilité s'en fait sentir à l'instant, mais quiconque sent le péché sentira aussi sa culpabilité. Le sang de la semence purifie, il affranchit de ce à quoi la loi s'accroche, et le sang de la semence purifie du péché de sa puissance et de sa tâche, et alors la culpabilité disparaît, la semence détruit la mort et celui qui en a le pouvoir, c'est-à-dire le diable, et là où cela est connu, la plénitude est connue, qui est au-dessus des degrés, ce vers quoi les degrés aboutissent. Principe. C'est une saveur de papisme que de dire qu'un homme peut déchoir de la grâce salvatrice. Réponse. La grâce de Dieu qui est apparue à tous les hommes, apportant le salut, est salvatrice, et vous, comme beaucoup de papistes, vous la changez en débauche et en licence. Ce qui apporte le salut est salvateur. Vous en êtes venu à vous entretuer au sujet des Écritures, ce qui n'était pas la pratique de ceux qui vivaient sobrement, justement et pieusement, qui renonçaient aux convoitises mondaines et à l'impiété, mais dont les cœurs étaient affermis dans la grâce qui était leur maîtresse. Mais vous et les papistes qui vivez dans le dérèglement, l'impiété et l'injustice dans les convoitises du monde, vous êtes déchus de la grâce salvatrice, vos fruits, vos actes le déclarent et le montrent chaque jour, et ainsi vous n'êtes que des parleurs de grâce, que vous avez tout. Principe, nous ne verrons pas Christ tel qu'il est jusqu'à ce qu'il vienne au jugement, alors, et pas avant, nous le verrons. Et ensuite il ajoute, tout homme qui a cette espérance se purifie, ce qui prouve aussi qu'il n'est pas pur et parfait, mais seulement en espérance. Voyez comment ce prétendu ministre tord les Écritures. L'Écriture dit « Quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. » Tout homme qui a cette espérance se purifie comme lui est pur. 1 Jean 3, 2, 3. Notez, l'Écriture ne laisse aucune marge d'interprétation quant au degré de pureté, pur comme Jésus est pur. Mais cet homme ose dire « pur mais seulement en espérance ». Il y a plusieurs autres Écritures qui ne laissent aucune marge. Nous devons être justes comme il est juste. 1 Jean 3, 7. Nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait, Matthieu 5, 48. Nous devons être miséricordieux comme il est miséricordieux, Luc 6, 36. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 1 Pé 1, 15. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde présent, 1 Jean 4, 17. Il n'y a aucune flexibilité ni aucune équivoque dans aucune de ces exigences énoncées. Réponse, vous, là où vous en êtes, vous ne le voyez pas, ni ne le connaissez tel qu'il est. Nous vous croyons, mais les saints, la véritable Église dont il est la tête, au milieu de laquelle il est et en laquelle il est. Et Christ dit à ses disciples qu'il l'avait connu, ils connaissaient le Fils, et avaient le Fils, et ils avaient aussi le Père, et celui qui ne l'a pas n'a pas la vie, et ils l'avaient touché et vu. Et l'espérance en elle-même est pure, et c'est elle qui purifie l'homme et le rend pur comme Dieu est pur. L'espérance, maintenant, est pure en elle-même, une chose distincte, et elle sert à rendre l'homme pur comme Dieu est pur. Principe. Dieu peut justement exiger de l'homme ce qui lui est dû, quoique l'homme ne puisse le donner. Non, si l'homme ne peut pas donner ce que Dieu exige comme dû, alors Dieu est injuste, mais bien sûr cet homme énonce une erreur, uniquement parce qu'il sait que les Écritures exigent qu'il soit saint, pur, juste et parfait, et pourtant il n'y parvient pas, alors il invente cette déclaration absurde au sujet de Dieu pour rationaliser ses propres échecs. Réponse. Dieu n'exige de l'homme rien de plus que ce qu'il lui donne. Principe. Que les Quakers envoient les hommes à la lumière au-dedans d'eux pour être rendus parfaits, ce qui n'est pas mieux que les ténèbres. Réponse. Vous qui envoyez les hommes à quoi que ce soit, sauf à la lumière au-dedans d'eux, vous les maintenez loin de la perfection dans d'épaisses ténèbres, et nul ne sort d'épaisses ténèbres pour parvenir à la perfection, sinon par la lumière au-dedans de lui, et ainsi en grandissant dans la lumière, ils grandissent dans ce qui est parfait, et ainsi dans la plénitude qui est Christ, qui est la perfection de Dieu. Principe, Christ sauve ici son peuple de la culpabilité de ses péchés, dans l'état de justification, l'état des meilleurs saints ici est imparfait. L'homme souffre de l'illusion d'une justification instantanée de fantaisie, de la sainteté et du salut par la seule foi en Jésus. La foi aboutit au salut, la foi aboutit à un cœur purifié, mais ni l'un ni l'autre n'arrive instantanément, seulement après que l'âme a été purifiée par l'obéissance au commandement de l'Esprit de Dieu sur la croix intérieure du renoncement à soi. Si Christ nous sauve de la culpabilité, alors il rend le péché plus facile. Si Christ rend le péché plus facile, alors il promeut le péché. S'il promeut le péché, alors Christ est mauvais. S'il est mauvais, il n'est pas Christ, donc il ne sauve pas les gens de la culpabilité de leur péché, seul le diable se faisant passer pour Christ sauve les gens de la culpabilité de leur péché. Christ pardonne les péchés passés, et pardonne les péchés d'un chercheur de sa grâce transformatrice et purifiante, tandis que le chercheur s'efforce de suivre et de se repentir. Mais si un croyant ne cherche pas à être libéré du péché, si ce croyant ne ressent pas de culpabilité pour ses péchés, ce qui le motive à rechercher la grâce purifiante de Dieu, alors ce croyant est condamné, et si un tel croyant meurt dans ses péchés, il sera banni du ciel. Réponse. Ceux qui sont justifiés sont sauvés de la culpabilité du péché. et ceux qui commettent le péché ressentent la culpabilité et ne peuvent pas dire qu'ils sont justifiés en le commettant, car celui qui sauve sanctifie, rachète et détruit le diable et ses œuvres, et la mort, là où il a du pouvoir, là où il maintient son autorité. Et si les meilleurs saints ici sont imparfaits, alors ils n'ont pas été amenés hors de l'état d'Adam dans la transgression, car un saint est quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui est racheté, quelqu'un qui en vient à connaître les œuvres du diable détruites, et qui est lavé, purifié et sanctifié par le nom du Seigneur. Et ce qui justifie enlève à la fois le péché et sa culpabilité, car comme il est écrit, il sauvera son peuple de ses péchés et de la culpabilité et de l'état misérable. Principe, assurément, ils ne peuvent être parfaits ici ou dans l'au-delà en égalité, mais seulement en qualité. Réponse, Christ ne fait aucune distinction dans ses paroles, mais a dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, et soyez miséricordieux comme il l'est, et tel qu'il est, tel nous sommes. » Et ce qui est parfait et miséricordieux, comme lui est parfait et miséricordieux, est en égalité avec la même chose qui est de Dieu et vient de lui. Nous devons être justes comme il est juste, 1 Jean 3, 7. Nous devons être parfaits comme notre Père céleste est parfait, Matthieu 5, 48. Nous devons être miséricordieux comme il est miséricordieux, Luc 6, 36. Nous devons devenir purs comme il est pur, 1 Jean 3, 2, 3. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 1 Pé 1, 15, 16. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde présent, 1 Jean 4, 17. Il n'y a aucune flexibilité, ni aucune équivoque dans aucune de ces exigences énoncées. Principe, les saints étaient parvenus aux esprits des justes rendus parfaits, mais pas sur la terre. Renvoie à, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et des myriades d'anges, de l'Assemblée générale et de l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, et de Dieu, juge de tous, et des esprits des hommes justes du passé rendus parfaits, Hébreux 12, 22, 23. Cela arrive à un saint alors qu'il est encore vivant sur cette terre, quand vous êtes transportés dans le royaume des cieux, dans l'esprit, vous entrez dans la compagnie des anges, des autres saints dans la lumière, et du Père et du Fils. Vous partagez l'héritage des saints dans la lumière, demeurant dans la lumière à laquelle nul homme ne peut accéder. C'est un témoignage supplémentaire de ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, 1 Jean 1, 3. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Tout cela arrive aux saints alors qu'ils sont encore sur la terre. Réponse. L'esprit des hommes justes qui les conduisait à produire les Écritures était l'esprit de Dieu, et il était parfait. Et c'est à cela, alors qu'ils étaient sur la terre, que les saints étaient parvenus à savoir Christ, la fin de toutes les paroles, et ainsi à Dieu, le juge de toute la terre. Philippe Tavernet, appelé prédicateur de la parole, dans son livre intitulé « The Quaker's Round ». Tels sont ses principes. Principes. Nous distinguons entre la parole essentielle et la parole déclarative, nous reconnaissons Christ comme l'essentiel et l'Écriture comme la lettre. Réponse. L'Écriture nous dit que Christ est la parole, les Écritures de vérité, qui ont été produites par l'Esprit de vérité, étaient les paroles de Dieu, en qui elles s'achèvent en Christ la parole. Et vous parlez d'une parole déclarative, et vous appelez l'Écriture une histoire, vous l'appelez un credo, et vous l'appelez un catalogue, et ces titres et noms, vous les avez donnés à l'Écriture de vérité, aux paroles de Dieu. Comme je l'ai dit auparavant, les Écritures de vérité sont les paroles de Dieu, produites par l'Esprit de Dieu, qui s'achèvent en Christ. Et elles ne parlent pas d'une parole déclarative, il n'y a que vous, dans vos distinctions subtiles et imaginées. Principe, et il y a une double venue de l'Évangile, l'une en parole, l'autre en puissance. Réponse. Les aveugles, vous voudriez ici leur faire croire que la parole n'était pas la puissance, alors que la parole et la puissance sont une, car Christ est la parole, et Christ est la puissance de Dieu, son nom est appelé la puissance de Dieu, et celui qui dispense la parole dispense la puissance de Dieu, et l'Évangile. Principe, les saints qui se tenaient sur le mont Sion, qui suivaient l'agneau, ces saints qui étaient sans tromperie devant le trône de Dieu, doivent s'entendre de la justification et non de la sanctification, dont il est parlé dans l'Apocalypse. Cet homme pense qu'il est justifié par sa croyance, mais il sait qu'il n'est pas sanctifié, même s'il se dit saint. Manifestement, il pense être un saint non sanctifié, ce qui est un oxymore. Il essaie donc de distinguer justification et sanctification, qui sont une seule et même chose. Mais pire, parce qu'il sait qu'il n'est pas sanctifié, il veut juger les 144 000 comme étant non sanctifiés eux aussi. Il est si arrogant qu'il ne peut même pas imaginer que les 144 000 aient une stature en Christ plus grande que la sienne. Réponse. Ici, tu t'es manifesté comme un accusateur des frères qui sont justifiés et déclarés sans faute. Or ceux qui sont justifiés sont sanctifiés et justifiés, il était dit, dans leur bouche il ne s'est trouvé aucune tromperie, ils n'étaient pas souillés, et maintenant ceux-ci, qui n'ont aucune tromperie, qui sont justifiés, et qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ceux-là sont sanctifiés. Ainsi tu juges de choses trop puissantes pour toi, tu te mêles de choses trop pesantes, et tu fais venir le jugement sur ta propre tête, ta mesure est mesurée, et les poids sont éprouvés, et tu es de ceux qu'on trouve trop légers. Principe. Celui qui est né de Dieu ne pèche pas de la même manière que ceux qui sont du diable. C'est l'Écriture, qu'il tord pour sa propre destruction, celui qui commet le péché est du diable, celui qui est né de Dieu ne pèche pas. 1 Jean 3, 8-9. C'est une tentative pitoyable de préserver l'illusion d'être né de nouveau tout en continuant à pécher. Il a maintenant inventé, de toutes pièces, deux catégories différentes de péchés, l'une pour ceux qui continuent à pécher tout en s'imaginant être nés de Dieu, et une seconde pour ceux qui sont du diable. C'est une doctrine très créative que le diable approuve grandement. Ainsi ceux qui sont nés de Dieu racontent de bons mensonges, mais ce n'est pas comme ces méchants païens qui ne vont pas à l'église le dimanche et qui racontent de mauvais mensonges. Quel concept, de bons pécheurs et de mauvais pécheurs. C'est pourquoi des milliers de personnes convenables sont aujourd'hui repoussées par le christianisme, l'hypocrisie de ceux qui prétendent être religieux, justes et favorisés par Dieu, tout en mentant, trichant, volant, jurant, haïssant, entrant en rage, etc. Au vu et au su de leurs voisins et relations. Réponse. Celui qui commet le péché est l'esclave du péché, Jean 8, 34, et celui qui commet le péché du diable, et celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, car il ne le peut pas parce qu'il est né de Dieu, né de cette nature qui ne peut pécher, et ceux qui pêchent sont du diable, de la même nature que leur père, mais celui qui est né de Dieu ne commet le péché en aucune manière, car il est de la même nature que son père. Principe, comme Jean a dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde présent, ce passage, dit-il, ne peut pas être ainsi dans toute son étendue. Ici, il nie encore l'Écriture. Pourtant il veut que nous croyions que l'Écriture est l'Esprit et que l'Écriture est la règle, ce qui, si c'était le cas, signifie alors qu'il ne peut pas croire aux règles et n'y est pas soumis. Réponse, je vous crois, car ce n'est pas des hommes de votre génération qu'elle a été produite, mais ceux qui sont fils de Dieu la comprennent telle qu'elle est, et la croient comme elle parle. Principe. Christ était saint dès sa conception, nous ne le sommes donc pas, dit-il, mais nous sommes sanctifiés avec le temps. Christ était saint, et nous ne le sommes donc pas, car il demeure encore en nous le péché qui habite en nous. Cet homme s'appuie sur la description que Paul fait des progrès d'un croyant. Paul a décrit le commencement, « Si donc je fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais dans mon esprit que la loi est bonne, maintenant ce n'est plus moi qui pêche, mais le péché qui demeure en moi. » Romains 7, 16-17. Lui, comme beaucoup de croyants qui pêchent, prend cette écriture pour signifier que Paul était toujours pécheur. Mais Paul est passé par cet état de commencement qu'il décrivait pour illustrer les progrès de la croissance chrétienne. Ayons donc cette pensée, nous tous qui sommes parfaits, et si vous pensez autrement sur quelques points, Dieu vous révélera aussi cela. Phil 3, 15 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. F4, 13 c'est lui que nous annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait en Jésus-Christ. Col 1, 28 ainsi donc, bien-aimés, ayant de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Cor 7, 1 or nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. 1 Cor 2, si lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Col 1, 13 j'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Gal 2, 20 Paul a dit qu'il avait reçu l'Évangile par révélation de Jésus-Christ, et que Dieu avait trouvé bon de révéler son Fils en moi. Ainsi Paul et d'autres avaient été délivrés du péché, avaient été transportés dans le royaume de Christ. Paul, en outre, avait la révélation de Jésus-Christ en lui-même et vivait en union avec Christ. Réponse, et certains ont été sanctifiés dès le ventre, et certains enfants étaient saints, nés de croyants. Christ dans l'homme et dans la femme est tel qu'il était dans sa génération éternelle. Il est le même et demeure, il est la sanctification, et il sanctifie les fils d'Adam non sanctifiés dans la transgression, et Christ les change et les rend semblables à lui-même. Et ceux qui ont la sanctification au dehors par un prétendu droit, et non au dedans par possession sont des hypocrites. Principe que les saints sont complets quant à la justification, mais pas quant à la sanctification. Réponse. Ceux qui ne sont pas complets dans la sanctification ne sont pas complets dans la justification, car elles ne font qu'un, ceux qui sont complets dans l'une le sont dans l'autre. Et dans la mesure où un homme est sanctifié, dans cette même mesure il est justifié, et pas davantage, car ce qui sanctifie un homme le justifie, car ce qui est sa sanctification est sa justification, et sa sagesse est sa rédemption. Celui qui connaît l'un les connaît tous, celui qui ne ressent pas l'un ne ressent aucun d'eux, car ils sont tous un. Principe, la foi ne justifie qu'instrumentalement, et elle ne justifie pas instrumentalement en tant qu'œuvre opérée en nous par l'Esprit. Réponse. L'homme est aveugle, il est en colère ici, et il se tourmente au sujet de choses trop pesantes pour lui, au sujet de choses qu'il ne connaît pas, car la foi est le don de Dieu qui purifie le cœur, qui donne aux gens accès à Dieu. En cela, et par ce qui purifie les hommes sont justifiés, et en cela il y a vertu, par l'écoute de cela, les hommes reçoivent l'Esprit. Ainsi c'est confusion, et contraire à l'Écriture, et démenti par elle, car vous êtes justifiés par la foi et par l'Esprit, en qui les hommes plaisent à Dieu, et sans qu'ils ne le peuvent, donc cela est instrumental. Et en cela ils ont la victoire, et en cela ils ont l'unité les uns avec les autres, et en cela ils ont accès à Dieu. Mais, dit-il, la foi ne justifie pas instrumentalement par aucune vertu qui soit en elle plus qu'en l'amour. L'amour et la foi ne font qu'un, sans la foi il n'y a pas d'amour. L'amour est le fruit de la foi, il en découle, sans elle il n'y a pas d'unité, et sans la foi il n'y a pas de victoire, et sans la victoire il n'y a pas d'amour, et cela justifie, et est opéré par l'Esprit, principe. Une conformité, parfaite à la loi écrite de Dieu, dans la force et la puissance de la grâce, l'Esprit opérant tout en nous et pour nous, tout cela n'est rien de plus que la justice de la loi. Réponse. C'est la fin de la loi qui conduit à la justice de la loi, et à une conformité parfaite avec elle, et l'accomplit. C'est la semence, Christ dans l'homme et dans la femme, par qui vient la grâce par Jésus-Christ, qui amène à vivre dans sa justice, qui est la justice de la foi, par laquelle l'Esprit est reçu, qui opère tout en les gens et pour eux, et qui met fin à la loi. Les principes des Brownists, principes. Ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu venant du ciel, ni vu sa forme, et pourtant ils affirment avoir la même puissance et le même esprit que les apôtres, bien que beaucoup moindres, et que la parole demeure en eux. Réponse. Vous qui n'avez jamais entendu la voix de Dieu, ni vu sa forme, vous n'avez pas vu celui qui est esprit, ni n'avez sa puissance, ni sa parole demeurant en vous. Car ceux qui ont l'esprit de Dieu et la puissance de Dieu, et la parole de Dieu demeurant en eux avec l'esprit de Dieu, avec la puissance de Dieu, voient la forme de Dieu. Et ceux qui ont la parole de Dieu demeurant en eux entendent la voix de Dieu, car Dieu est la parole, et Dieu habitera en eux et marchera en eux. Principe qu'ils sont amenés à l'Église qui est en Dieu, la colonne et le soutien de la vérité, où il n'y a ni tache ni ride, ni rien de semblable. Réponse. Et pourtant vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu, comment pouvez-vous être amenés à l'Église qui est en Dieu et n'avoir jamais entendu la voix de Dieu? Car nul ne vient au Fils que par l'attrait du Père, et nul ne connaît l'attrait du Père, sinon ceux qui entendent sa voix. Les Juifs qui ne vinrent pas au Fils, Christ leur dit qu'ils n'avaient pas connu la voix de Dieu, et nul ne vient à lui, sinon celui que le Père attire. Principe, nous n'attendons rien de tel qu'une révélation du ciel, ou parler comme ils sont mus, ou attendre la puissance, comme faisaient les apôtres, nous disons que nous n'attendons rien de tel. Réponse. Cela montre que vous n'avez pas reçu la grâce, car la grâce vient par révélation, et que vous n'avez pas reçu le Fils, car le Fils vient par révélation, ni n'avez connu le Père que le Fils révèle. Vous n'êtes pas venu au Saint-Esprit dont les saints rendaient témoignage, qui les conduisait à produire les Écritures, car aucune prophétie de l'Écriture n'est venue de la volonté de l'homme. Ainsi vous êtes parmi ces hommes qui ont les Écritures selon leur volonté, et qui manquent de ce par quoi les Écritures ont été produites, à savoir le Saint-Esprit. Car de saints hommes de Dieu furent mus pour les exprimer, qui les apprirent de Dieu, et les exprimèrent comme l'Esprit leur donnait de parler. Comment donc pouvez-vous dire que vous êtes venu à l'Église en Dieu ? Et que vous n'attendez ni la puissance, ni la révélation comme les saints faisaient et dans lesquels ils étaient. Car si vous avez toutes les Écritures et que vous n'avez pas la puissance, vous n'avez pas la révélation, et vous n'avez pas le Saint-Esprit, car les Écritures ne sont pas connues sinon par révélation, et elles sont révélées par l'Esprit qui les a produites, et même si les hommes ont toutes les Écritures, pourtant le Fils n'est connu que par révélation du Père. Principe. L'Écriture est l'Évangile, l'Écriture est la lumière, l'Écriture est la parole. Réponse. Les Écritures sont les paroles de Dieu, produites par l'Esprit de Dieu, apprises de lui. L'Évangile est la puissance de Dieu, l'Écriture le déclare. Un homme peut avoir la forme et nier la puissance, et ainsi nier l'Évangile. Christ est la lumière du monde, la vie est la lumière des hommes, par qui le monde a été fait, et beaucoup possèdent les Écritures, mais ni la lumière, la vie et la puissance qu'elles ont, Christ Jésus, qui est leur vie, leur puissance et leur autorité. Principe. Qu'ils ne connaissaient aucune loi de Dieu contre le fait de prier et de prêcher au sablier, et que les apôtres accomplissaient les ordonnances de Dieu à des heures fixées, et que Daniel et David priaient habituellement, et comment on peut dire que cela est un culte de volonté, et pour être vu des hommes, nous le laisserons au Seigneur. Le culte de volonté est un culte selon le plan, l'agenda et l'horaire de l'homme. L'adoration en esprit et en vérité est une adoration dictée par le Saint-Esprit, sur le moment, sans agenda, sans que personne ne parle, prêche, enseigne, lise ou prie, à moins que le Saint-Esprit ne les y incite à cet instant. Réponse. Le Seigneur juge que c'est un culte de volonté que de limiter le saint à un sablier, et l'Esprit du Seigneur, qui apprit aux saints à prier, ne s'est jamais limité à un sablier. Ainsi, vous priez et prêchez aux sabliers comme les papistes avec leur chapelet, donc ce qui limite le Seigneur à une heure fixée, ce sont des traditions et des vaines coutumes des païens, et des traditions des hommes, qui ont toujours limité l'Esprit. Cet Esprit, au contraire, a donné la liberté au juste en chacun, qui disait « ne l'éteignez pas, ne le limitez pas », mais il a renversé les vaines coutumes et traditions des hommes, établies par des hommes qui avaient éteint l'Esprit en eux-mêmes et voulaient limiter le saint en d'autres. Et ceux-là ont toujours été jugés par le Seigneur et par ceux qui avaient son Esprit, comme des idolâtres, étant dans le culte de volonté, et non dans l'Esprit, chose survenue depuis les jours des apôtres. Continuez, vers les réfutations suivantes, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.